Le propos de cette émission est d'évoquer la SLA, sclérose latérale amyotrophique, autrement appelée maladie de Charcot, au travers du vécu et du témoignage de Paulo Mondano, auteur, compositeur, chanteur, que nous connaissons depuis le début des années 90.
Côté pile, elle a peine nous habille. Easy Rider, odeur de monteur, nous fait rêver. Hier, on s'aimait. Hier, on s'aimait. Et sur ta route, bébé, n'oublie pas ça. Hier, on s'aimait. Hier, on s'aimait. Et sur ta route, bébé, oh, rappelle-toi, rappelle-toi, Lucie. Remember Lucie. Kerouac au pochoir, sur les murs, les trottoirs, pousse fort les images. Lucy, remember Lucy. Les couleurs de Warhol, les photos des idoles, on affiche les symboles. Taxi driver, dernier loser, nous fait rêver. Hier,
on s'aimait.
Hier,
on s'aimait.
Et sur ta route, bébé, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça.
Hier, on s'aimait.
Hier,
on s'aimait.
Et sur ta route, bébé, rappelle-toi. Rappelle-toi le pays du merveille de Jules qu'on a toujours dans la tête. Où c'est peut-être éteint. Où c'est peut-être éteint. Le pays du merveille de Jules qu'on a toujours dans la tête. Où c'est peut-être éteint. Où c'est peut-être.
En 2008, Jean-Paul Fontin, nom de scène Paulo Mondano, 54 ans, apprend qu'il est atteint de la maladie de Charcot, qui va peu à peu paralyser l'ensemble de ses muscles. Terrassé par la nouvelle, il décide tout de même de tenir et de se battre, à sa façon, contre le mal. Polo est né le 28 juillet 1956 à Riez-la-Romaine dans les Alpes de Haute-Provence. Après diverses expériences professionnelles, il s'adonne à sa passion première, à savoir la musique. Il débute sa carrière au sein d'un groupe sous le pseudo de Marcel Crado et entame plusieurs tournées dans les années 80. Nous le découvrirons alors en première partie dans la Bachung à Valence en 1990. Puis il continue dès 1991 en solo et devient Polo Mondano. Sorti de son premier disque, couleur Cinecittà, en 1992, aux couleurs folk, jazz et blues. Second album, Le choix du décor, en 1996, dans lequel les textes se font de plus en plus personnels et profonds et reflètent une vision du monde essentiellement humaniste. C'est à cette époque également qu'il rencontre Pascal Coquard, avec lequel, bien des années plus tard, il réalisera les deux albums Totem Project, qui représentent son actualité musicale depuis 2010, qui éblouissent par l'osmose entre textes incarnés et musique évocatrice. Totem Project est empreint d'une plénitude, celle d'une maturité artistique. Ces deux albums, Le Blues du Monde et Le Passage, bénéficient d'une reconnaissance internationale. Un spectacle intitulé Univers Totem est créé. Malheureusement, la SLA montre ses premiers signes physiologiques, obligeant Pascal, Polo et toute l'équipe à mettre fin à l'activité de Totem Project.
Moins amer, mes pensées vont à Dieu le Père, canaille du fond de l'univers, qu'entends-tu donc de nos prières? C'est pas d'hier que la mort, avec arrogance, cueille les fleurs sous les pas de nos danses. Y a trop de haine, d'acide brûlant dans nos veines. Y a trop de haine, de souffle maudit qu'on déchaîne. Pas plus divine, pas moins amère, mes pensées vont à Lucifer. Canaille, à quel jeu pervers doit-on l'idée de l'enfer sur terre? C'est pas d'hier que des barbus et des bons sublime la mort dans leur cri qui résonne. Y a trop de haine, d'acide brûlant dans nos veines. Y a trop de haine, de souffle maudit qu'on déchaîne. Et j'en appelle au poids de nos chaînes, j'en appelle au prix de nos peines, j'en appelle à la conscience humaine, j'en appelle à toi, ami, ô frère que j'aime. Y a trop de haine. D'acide brûlant dans nos veines. Le souffle maudit qu'on déchaîne. Y a trop de haine.
À suivre le témoignage de Polo Mandano concernant sa maladie et la survenue de celle-ci.
Quand j'ai appris la nouvelle, le temps a explosé. Le passé est devenu dérisoire et le futur très très aléatoire. Restait le présent. J'ai assez vite compris que c'était la seule chose sur laquelle je devais me concentrer. Je ne me sentais pas malade, j'avais juste une petite faiblesse dans le bras droit. Il a fallu chercher longtemps avant d'en trouver la raison. Finalement, le neurologue a diagnostiqué une LSA, Sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative qui fige tous les muscles les uns après les autres, en 3 ou 4 ans. Mon corps est en train de se momifier vivant et un jour, bientôt, je n'aurai plus la capacité musculaire de respirer. J'ai d'abord pensé à mourir, mais il y a les gens que j'aime et qui m'aiment, mes deux enfants, mes proches. J'ai décidé de tenir jusqu'au jour où je ne pourrai plus jouer de la guitare et faire ma toilette tout seul. La maladie fait son chemin en détruisant mon corps, mais tout le reste m'appartient. Mon âme, mon énergie créatrice, mes désirs, la connaissance de moi. La médecine n'a aucune arme à me proposer. Aucun médicament pour stopper son évolution. Le seul terrain sur lequel je peux me battre, c'est l'ailleurs. L'amour, la créativité, la vie, pour rester un être social. Cette maladie, c'est un très long et très étonnant voyage. Comment être un musicien si je ne peux plus toucher une guitare ? Comment être un homme si je ne peux plus aimer une femme, accéder à la sexualité, protéger mes enfants ? Comment être un être libre si je ne peux plus ouvrir une porte, conduire une voiture ou boutonner mon manteau ? Perdre mon autonomie au quotidien, c'est perdre une partie de qui je suis. La SLA est le cancer de l'ego, un tsunami qui dévaste les racines identitaires. Il a fallu que j'apprenne à demander. Ça m'a blessée, humiliée au début, et puis j'ai découvert que demander de l'aide à un autre, c'est lui donner la possibilité d'être aimant et disponible. La maladie m'a obligée à aller me chercher. J'ai cette force de vie incroyable. Je n'ai pas peur de la mort, au contraire. Je sais que le moment venu, elle me délivrera de mon corps momifié. Je déciderai du moment où c'est assez. Ce qui me fait vraiment peur, c'est la non-vie. Je suis tombée malade et j'ai découvert l'humanité. La mienne et celle de ceux qui m'entourent.
Installé tranquille au cœur d'une gare, je guette au hasard les trains au départ. Je suis pas là pour partir, pas là pour m'enfuir, pas même changer de quai. Je veux juste essayer de retrouver la trace d'un fantôme qui part. Qu'est-ce que je peux faire au fond de la galère, trois pieds sous terre, pour oublier? Qu'est-ce que je peux faire, genoux à terre, prier l'enfer? Adossé tranquille au bout du comptoir, je regarde sans voir se croiser du regard. Je suis pas là pour mater, pas là pour chasser des brebis esselées. Je veux juste essayer au décor accroché notre image froissée. Galère, trois pieds sous terre, pour oublier. Mais qu'est-ce que je peux faire, genoux à terre, prier l'enfer de t'oublier. Tranquille sur un bout de carton. Je partage le délire d'une bande de souillons. Je suis pas là pour chercher, encore moins espérer un brin d'humanité. Je veux juste essayer de retrouver la paix dans les bras de Morphée. Au fond de la galère, trois pieds sous terre, on peut oublier. Qu'est-ce que je peux faire? Un genou à terre, prier l'enfer. Sous sans tasse, pêle-mêle les questions. Je laisse au temps tout l'espace de répondre en mon nom.
À l'instant, Bord de route, album de Paulo Mondano. Nous continuons tout de suite avec quelques éclaircissements concernant la SLA, cette maladie encore largement méconnue.
La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, fut pour la première fois décrite par le médecin français Charcot en 1897. Les causes ne sont toujours pas connues. Dans 90% des cas, la maladie semble ne pas être héréditaire. La SLA frappe des adultes de 40 à 50 ans, en principe, mais elle peut apparaître chez des personnes plus jeunes. C'est une maladie qui consiste en une dégénérescence plus ou moins rapide de la partie du système nerveux qui commande la motricité. Avec 8000 cas recensés en France, on considère la maladie de Charcot comme faisant partie des maladies orphelines. Ce qui caractérise principalement la maladie de Charcot, c'est une paralysie de tous les muscles qui progresse au fil du temps. Paralysie qui s'accompagne d'une fonte progressive de la masse musculaire, c'est ce qu'on appelle l'amyotrophie. Il arrive aussi que les fonctions cognitives soient touchées sous la forme d'une démence frontotemporale. L'évolution de la maladie peut aller de quelques mois à quelques années tout au plus. Il faut malheureusement préciser que dans 50% des cas, le décès du malade intervient dans un délai qui ne dépasse pas 3 ans après le commencement de la maladie. La mort est entraînée par la paralysie complète des fonctions respiratoires. Cette issue fatale se produit au terme d'une dégradation de l'état du malade que rien ne vient enrayer, pas même le riluzole, le seul médicament efficace, mais qui ne permet guère qu'une prolongation de quelques mois de la vie des patients atteints.
De l'air de rien, on étouffe dès le matin, en l'air mort de faim, l'info sert le festin. C'est la foire, c'est Barnum, jeu de cirque et péplum, mauvais trip en Sodome. Thank you.
J'entends au lointain la voix d'un peuple en besoin, mais je perds pour un rien le fil qui mène à l'humain. C'est la foire, c'est Barnum, jeu de cirque et péplum, mauvais trip en Sodome. Je veux du temps à rien faire. Je veux en silence écouter l'univers. Je veux du silence. Je veux du temps pour rien faire. Je veux en silence rêver l'univers.
Madame Annick Marty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Arsla, c'est bien cela ?
Oui, je suis adhérente depuis une vingtaine d'années et je suis bénévole depuis une douzaine d'années à l'association.
Donc vous êtes sur Saint-Étienne ?
Voilà.
Est-ce qu'on pourrait, pour commencer, retracer dans les grandes lignes l'historique de l'association et puis après parler des objectifs principaux que cette association mène par rapport à la maladie de la SLA ?
Bien sûr. Alors, l'association a été créée en 1985. Elle a été fondée par Guy Serra, qui était malade, qui est décédé. Bien sûr, depuis. Le premier centre SLA a été créé à Paris, à la Pitié-Salpêtrière en 1990. En 1991, l'association a été reconnue d'utilité publique. À partir de 2001-2002, l'association a favorisé la création de 17 centres SLA en France qui sont répartis sur le territoire. Ces centres fonctionnent dans les hôpitaux. Et c'est grâce à l'association que ces centres ont pu être mis en place. En 2006, l'association a été agréée par le ministère de la Santé comme association d'usagers du système de santé. Puis récemment, en 2010, l'association a été agréée par le comité de la charte, ce qui veut dire que l'association est reconnue comme utilisant tout à fait convenablement les fonds qui lui sont alloués. Voilà.
D'accord, oui, effectivement, il y a une histoire assez longue et assez riche. Vous avez réussi à vous faire reconnaître au niveau des pouvoirs publics, progressivement.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis, donc, on continue à avoir une action auprès des pouvoirs publics.
Oui, bien sûr.
C'est une de nos missions.
Est-ce que vous présentez la SLA, on dit plutôt SLA que SLA, oui. D'accord. Est-ce que vous présentez donc cette maladie en tant que maladie rare ou maladie orpheline ?
C'est la plus fréquente des maladies rares.
Est-ce que vous vous inscrivez dans des actions plus médiatiques ? Je pense évidemment au Téléthon, par exemple.
Oui, alors, on est présent dans les médias. dans, au Téléthon, pas énormément parce que il n'y a qu'une toute petite fraction de malades SLA qui relèvent de la génétique. Mmh. Par contre, on est présent, hein, dans les, on est présent dans les médias. Bon, d'abord, on a un site internet qui est très facile à utiliser. On est surtout présent dans les médias locaux au cours de manifestations qui se font un peu partout en France pour faire connaître la maladie et pour récolter des fonds pour l'association. Donc à cette occasion, il y a des articles dans la presse. Mmh. On est aussi soutenu par une comédienne connue qui est Clémentine Célarier, qui organise des spectacles au profit de l'association. On est partie prenante aussi le 21 juin, qui est la journée mondiale de la SLA. À Saint-Étienne en particulier, on est aussi présent au mois de mai au cours d'une semaine organisée par la mairie autour du handicap. Voilà, et puis alors l'année dernière, il y a eu un événement important. L'association a organisé un colloque à Paris au mois de mai ou juin. Voilà un petit peu le tour de ce que je peux vous dire,
oui, alors,
à propos de notre présence dans les médias.
Voilà, et en même temps, vous répondez à la question précédente, à savoir les objectifs de l'association. Déjà, c'est faire connaître la maladie, c'est faire progresser différentes actions type recherche grâce à l'appel aux dons. Hein, c'est bien cela, on est dans les objectifs, là.
Voilà, oui, oui. Alors écoutez, notre objectif premier, c'est l'accompagnement, l'accueil et l'accompagnement des malades et de leurs proches. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment le plus important, avec bien sûr le financement de la recherche et en même temps la formation qu'on peut fournir aux soignants, parce que certains soignants, certains kinés ne sont pas forcément bien informés, hein, sur la maladie. On ne remplacera pas bien sûr les médecins et les professionnels de santé. Mais on peut fournir quelques informations. Et puis, notre quatrième objectif est d'acquérir du matériel qu'on puisse prêter aux malades qui en ont besoin, en particulier des matériels qui sont très coûteux et qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale.
Alors justement, on va reprendre un petit peu les différents points, si vous le voulez bien, que vous venez d'évoquer. Alors déjà, ce qui est très important, c'est effectivement faire en sorte d'éviter l'isolement, hein, l'abandon, entre guillemets, du malade, hein, et de sa famille, enfin de ses proches, c'est très important.
Bien sûr. Hein. Oui,
ça,
oui,
ça
oui.
Fait référence à l'aide aux aidants, hein, dont on parle de plus en plus en France. Alors,
oui.
Est-ce que l'information, elle va jusqu'à concerner, par exemple, les aides à domicile, les auxiliaires de vie? Vous voyez des personnes comme ça qui sont pas dans le médical?
Alors les auxiliaires de vie, je ne sais pas, il y a eu des informations auprès des kinés et puis on a à l'association des fiches qu'on peut donner au personnel de santé, aux auxiliaires. Alors au niveau des auxiliaires de vie, je ne sais pas, ça, je ne peux pas vous répondre.
Oui. Je posais la question parce que il peut arriver que les familles soient, comment dire, aient besoin de souffler aussi un petit peu, vous voyez ce que je veux
oui,
dire
oui, oui.
Voilà.
Oui, oui. Alors ça fait partie de nos projets. Donc dans nos projets, on essaie de développer et d'aider à la création de lieux de répit, de façon à ce que les personnes malades puissent être accueillies pendant un certain temps dans de bonnes conditions, pour que les familles puissent souffler un petit peu.
Oh oui.
Mais ça, on pourra en reparler.
Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi le fait que cette maladie, on ne l'a pas encore dit, mais est évolutive, malheureusement. Donc, ça nécessite des adaptations régulières. En termes, vous parliez de matériel, mais voilà, je crois qu'on est là-dedans. Régulièrement, il faut
oui.
Réadapter le dispositif autour mm-hmm. de la personne, hein, c'est bien ça?
Oui, oui, oui. Il y a deux cas quand même très différents pour les malades et les familles. Si les personnes sont suivies dans un centre SLA, hein, je vous ai dit qu'il
oui.
y avait actuellement 17 centres
oui,
en
oui.
France. Donc, si les malades sont suivis régulièrement par un centre SLA, ils seront dans les meilleures conditions possibles pour être aidés à tout point de vue. Puisque dans ces centres, les malades sont accueillis par une équipe pluridisciplinaire qui comprend les neurologues, mais aussi kinésithérapeutes, ergothérapeutes, assistantes sociales, psychologues, voilà, enfin, bon, j'en oublie certainement. Et donc, lorsque les malades sont suivis par les centres SLA, ils ont la possibilité d'avoir les conseils et les renseignements dont ils ont besoin. Le problème est bien sûr beaucoup plus difficile lorsque les malades sont à la campagne, loin d'un centre, qu'ils n'ont pas la possibilité de rencontrer cette équipe pluridisciplinaire. Là, c'est plus difficile parce qu'il faut trouver tous ces intervenants par soi-même.
Oui.
Mais l'association est là pour écouter les demandes, les besoins des malades et de leurs proches et les conseiller. Nous avons à l'association une assistante sociale qui peut répondre aux demandes toutes les semaines, le vendredi après-midi, et nous avons aussi une ergothérapeute qui s'occupe justement du matériel que possède l'association et qui est prêté aux malades qui en ont besoin.
Oui, parce qu'il y a un coût, évidemment, hein, un coût qui peut être très élevé selon le matériel.
Oui, oui.
Je pense notamment à tout ce qui est aide au niveau de la communication, par exemple.
Oui, tout à fait. Hein. Bon, actuellement, certains matériels sont remboursés par la Sécurité sociale, en particulier les fauteuils roulants. Certains matériels qui sont très coûteux actuellement peuvent être achetés, mais bon, tout le monde ne peut pas acheter du matériel très très coûteux, en particulier le matériel de communication. Et c'est pour ça que l'association vise surtout ce type de matériel qui est très très coûteux. Que nous, on a du matériel qu'on peut prêter, et puis on est en train d'essayer d'appuyer une possibilité de prêt de matériel. C'est-à-dire qu'au lieu que les personnes soient obligées d'acheter du matériel, elles pourraient tenir ce matériel en prêt auprès des fournisseurs, mais ça, c'est pas encore fait. Hein.
Oui, d'accord.
Bon, on est en train de travailler et d'essayer d'appuyer avec d'autres, bien sûr, avec d'autres, on n'est pas tout seul, hein, pour qu'il y ait un changement dans ce domaine-là.
Alors sinon, quels peuvent être les financements pour les personnes concernées? Bon, on peut dire quand même que c'est une maladie qui handicape à divers égards.
Bien sûr.
Oui. Alors, à ce propos, est-ce que par exemple la PCH, prestation compensation du handicap, peut jouer un rôle?
Alors, sur le plan social, moi je ne vais rien pouvoir vous dire parce que c'est très compliqué. Mmh. Il faut absolument s'adresser à une assistante sociale. Le cas est très différent suivant que les personnes ont moins de 60 ans ou plus de 60 ans.
Oui, bien sûr. Oui, oui.
Donc les possibilités de financement, moi je ne suis pas assistante sociale, je ne les connais pas. Il faut s'adresser soit à une assistante sociale locale, soit à l'assistante sociale d'un centre SLA, si les personnes peuvent être suivies dans un centre SLA, soit auprès de l'assistante sociale de l'association.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, oui, oui.
Mais là, je ne pourrais pas vous répondre parce que je vais vous dire des bêtises.
Ouais. On va juste dire que, voilà, qu'il y a des possibilités diverses en France.
Voilà, il y a des possibilités, mais pour savoir exactement quelles sont les possibilités aujourd'hui, parce que ça change aussi, il faut vraiment s'adresser à une assistante sociale.
Tout à fait, oui. Combien de personnes sont malades en France actuellement de cette maladie?
Alors, entre 6 000 et 8 000. On ne peut pas donner un chiffre précis parce que toutes les personnes ne sont pas répertoriées. Comme la maladie est encore assez mal connue, il y a certainement des personnes qui sont atteintes de la SLA qui ne sont pas répertoriées, comptées, si vous voulez, comme malades de la SLA.
Et est-ce qu'il y a une évolution dans cette maladie? Est-ce que vous percevez comme ça, malheureusement, une évolution vers un plus grand nombre ou pas ces dernières années?
Je n'ai pas l'impression. Il y a 1000 nouveaux cas par an en France. Je n'ai pas entendu dire qu'il y ait une évolution très caractérisée.
D'accord. Non, parce qu'on rappelle quand même que les causes ne sont pas complètement définies.
Pas du tout. Ouais. Pas du tout définies. Et actuellement, après 20 ans de recherche sans aboutissement pratiquement, on est en train de penser que peut-être la SLA n'est pas une maladie, mais plusieurs maladies différentes qui se traduiraient par des symptômes semblables. Et donc actuellement, on ne connaît pas là où les causes. Il y a des hypothèses, bien sûr, qui servent aux recherches, puisqu'elles existent, les recherches.
Oui, oui.
Mais actuellement, on n'a pas de réponse à cette question.
Moi, j'ai envie de vous demander, pour clôturer cette interview, comment vous voyez les projets à venir sur les mois prochains par rapport à l'association?
Oui, alors l'association, donc, je vous ai dit qu'il y avait 17 centres et il y a actuellement un manque important en Bretagne. Donc, on essaie de faire créer un 18e centre en Bretagne. On va continuer notre...
Oui, vous allez continuer les actions déjà entamées, voilà, j'imagine.
Voilà, on va continuer les actions. Donc, je vous ai parlé des lieux de répit. Donc, ça, on va essayer de proposer notre aide à certains lieux pour que les malades puissent être pris en charge un certain temps, quelques semaines, dans de bonnes conditions, afin que les familles puissent souffler un peu.
Oui.
On continue bien sûr notre soutien à la recherche, en particulier sur un projet important qui va concerner à peu près 1000 malades en France, de façon à recueillir le maximum d'informations sur ces malades, afin d'essayer de trouver des sous-groupes de malades, puisque je vous ai dit que la SLA n'était peut-être pas une maladie, mais plusieurs maladies différentes, et de façon à pouvoir cibler davantage la recherche et le traitement. Voilà,
Il y avait ce que vous disiez par rapport au projet de prêt de matériel. Enfin, il y a plein d'idées qui sont en cours, en gestation.
Oui, on continue donc à acquérir du matériel, soit pour les prêter directement aux malades, soit pour les mettre à disposition des centres SLA dans les hôpitaux, parce que vous savez, les hôpitaux ne sont pas très riches non plus,
oui.
Et que quelquefois, il est intéressant que ces matériels soient mis à la disposition des centres SLA qui pourront les proposer aux malades, proposer une démonstration, un essai, de façon à ce que les personnes connaissent l'existence de ces matériels et puissent en faire l'essai.
D'accord. Est-ce qu'on pourra avoir un contact pour aider l'association? Comment qu'on peut la soutenir, cette association?
Vous pouvez la soutenir de plusieurs façons. D'abord, il faut inciter un maximum de personnes à adhérer. Vous savez que plus on a d'adhérents et plus on a visibilité et de poids lorsqu'on a une action auprès des pouvoirs publics. Donc là, ça, c'est la première chose, avoir un maximum d'adhérents. On peut faire des dons, certaines personnes font des legs, et puis il y a toutes les manifestations qui sont organisées en France qui permettent de faire connaître l'association et de récolter des fonds. Ces manifestations sont très diverses, ça peut être des concerts, des marches, des expositions. Ces manifestations font connaître la maladie, l'association, et permettent de recueillir des fonds pour l'association et donc pour le financement de l'aide aux malades et de la recherche.
Et puis sinon, il y a un site internet.
Alors, voilà, le site est très bien fait. Donc le site, c'est www.arsla-asso.com. De toute façon, si on tape sur n'importe quel moteur de recherche, ARSLA, on trouve.
Voilà.
Et puis, il y a, si on veut téléphoner, il existe un numéro vert qui est le 0800 600 106 ou alors un numéro de téléphone ordinaire 01 43 38 99 89. Donc, il y a une permanence téléphonique tous les après-midi du lundi au vendredi, qui est assurée par les bénévoles de l'association, qui répondront aux questions ou aux demandes que chacun peut faire à l'association, voilà.
D'accord. Bah, écoutez, Madame Marty, Annick, merci beaucoup pour votre disponibilité.
Je vous en prie.
Et puis, on vous souhaite, un bon courage, et puis pour votre investissement pour les mois à venir au sein de l'association.
Merci, j'espère avoir répondu à votre demande.
Oui, c'était complet, c'était intéressant. Donc vraiment merci beaucoup à vous.
Pour tout renseignement et pour acheter les deux albums Totem Project, rendez-vous sur le site www.totem-project.com. Une partie des bénéfices sera reversée en faveur de la recherche sur la SLA. Merci.
Cette émission a été réalisée grâce à la participation active de Sylvie, Julie et Denis. Nous tenons à remercier par ailleurs Gaël et Lionel pour la production, la technique de cette émission.
À mes pieds, ces feuilles mortes par le vent délaissées, j'ai sous les yeux la vie haute en couleur, et ces adieux, ces parfums, ces rumeurs. Terre m'habite, coup de tonnerre, mon corps me quitte, je laisse faire. Silence.